C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur René Goscinny, 1926-1977. Scénariste et dialoguiste de bande dessinée, français. Albert Uderzo, né en 1926, dessinateur. Œuvre, le numéro 1 du magazine Pilote, le 29 octobre 1959, puis l'album Astérix le Gaulois, 1961, et les 22 albums consécutifs des aventures d'Astérix le Gaulois jusqu'à Obélix et compagnie, que Goscinny et Uderzo ont écrit ensemble. Personnage Astérix. Adaptation, plusieurs adaptations en dessin animé et au cinéma. Rôle d'Astérix interprété par Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard Baird. Bien des nations ont un personnage de conte ou de bande dessinée, personnage humoristique en tout cas, par lesquels elles se moquent de leurs défauts et finalement ne s'en moquent pas. Ainsi, le Nasreddin Hoxha des Turcs, moqueur insolent qui se tire toujours de ses balourdises, et cela depuis des siècles, et depuis des siècles, les Turcs ne semblent pas changer beaucoup. Nasreddin Hoxha ne sert-il pas à la fin à entretenir leurs défauts ? Ne pourrait-on pas, de la même façon, dire qu'Astérix sert à entretenir les défauts des Français ? Par moments, il me rappelle cette publicité pour le journal Le Parisien, en 2013, qui, après avoir montré un personnage bien goujat, concluait « Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. » Et dans les salles de cinéma, les Parisiens riaient. Ils ne s'apprêtaient pas du tout à changer en sortant. Astérix nous raconte-t-il que nous sommes des râleurs et que c'est très bien ainsi ? Ou bien est-ce nous qui avons fait un triomphe à Astérix qui l'a fait pencher dans ce sens-là ? Il a quelque chose du Charlot de Charlie Chaplin, Astérix. Un petit rusé qui pousse les autres à se battre et baisse les yeux quand une jolie fille le regarde. Ah, voilà, peut-être. Un timide. Et comme les timides, réaction violente ? Les personnages de bande dessinée, dans leur simplification, montrent mieux que les personnages de roman que tout personnage n'existe qu'en fonction des autres, exactement comme nous, les personnes. Enlevons Obélix à Astérix, Astérix perd beaucoup d'intérêt. Et le chien Idéfix. C'est une invention graphique d'Uderzo dans le Tour de Gaulle en 1965. Il n'a au départ pas de nom. Un jeu concours est lancé dans le magazine Pilote. Goscinny et Uderzo font savoir qu'ils ont retenu la proposition d'un lecteur, ce nom d'Idéfix. Peut-être est-ce d'ailleurs un faux lecteur et l'ont-ils choisi eux-mêmes, ce qui serait plus artistique. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'un dessin, un trait, un mouvement engendre un personnage. Uderzo aimait bien ce dessin et peut-être que le meilleur moyen pour le conserver dans le récit était de lui assigner un nom et d'en faire un personnage. Au fait, le cabot, ça ne serait pas Astérix ou les Français lisant les aventures d'Astérix ? Astérix est-il le cabotinage des Français ? Pour parler d'Astérix, je reçois Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, dont le dernier roman « L'amant noir » a paru chez Gallimard. Étienne de Montetti, pour commencer, est-ce que vous voudriez me décrire physiquement, pour le hasard très, très peu probable où les gens ne le connaîtraient pas, à quoi ressemble Astérix ?
Astérix est un petit homme, ceux qui ne l'aiment pas dans la bande dessinée l'appellent le Nabo. Il a des longues moustaches blondes, il a un casque, un glaive, et il est habillé en noir et rouge. Et il a les traits du Gaulois tels qu'on se le représente dans les livres d'histoire. Et donc tous les lecteurs, instantanément en 1959, voient qu'ils ont affaire à un Gaulois. Peut-être que c'est son nez, son gros nez, qui permet de dire qu'on va être en face d'un spectacle d'humour, d'ironie et de dérision.
Comment a-t-il été créé ?
Alors Goscinny et Uderzo racontent qu'ils l'ont créé sur un coin de table. Ils cherchaient à monter une série pour le journal Pilote qui allait se créer. Ils étaient à quelques mois du lancement. J'ajoute que le nom d'Astérix, on en parlera peut-être plus longuement plus tard, mais le nom d'Astérix a été choisi par Goscinny qui était un malin et qui savait qu'il faut toujours prendre un nom qui commence par un A, ce qui permet dans toutes les typologies, dans tous les dictionnaires, d'être en premier.
Et est-ce qu'on sait comment ils ont créé le nom d'Astérix ?
Alors, là encore, ils se sont inspirés du seul nom gaulois que le français moyen connaissait, c'est Vercingétorix. On reconnaît le Rix, le Rex du roi latin. Et puis, Goscinny, qui avait beaucoup d'esprit, a vu tout l'humour qui pouvait sortir de ces noms en X. Et puis de l'astérisque. des typographes. Il a fait Astérix et puis de l'obélisque de la place de la Concorde, il a fait l'obélix.
Et ces noms en X, vous le disiez, marquent la nationalité. Et c'est ce qui est amusant dans les aventures d'Astérix, c'est que chaque groupe a sa morphologie nominale, si je puis dire pompeusement, qu'il soit espagnol, breton ou belge. C'est tous les noms sont très caractérisés.
Oui, ça c'est un des traits de génie de Goscinny, qui arrive à délimiter chaque nation avec des caractéristiques, parfois bricolées, parce qu'en réalité les Gaulois ne s'appelaient pas tous Rix, c'était le roi qui s'appelait comme ça, je crois que c'était beaucoup de noms en os, mais les os et les as, ce sera les Grecs. Les Bretons, il me semble qu'il y a à la fois du X et du os. Et puis évidemment, les Romains en us.
Et les Hispaniques ?
Et les Hispaniques, sous Palognon y Croton.
Alors, nous n'allons pas raconter ce qui arrive à Astérix dans chacun des 22 ou 23 albums que Goscinny et Uderzo ont fait ensemble, mais est-ce qu'on pourrait tirer une sorte de typologie des aventures d'Astérix ?
Oui, c'est d'ailleurs assez simple. Très très vite s'installe un rythme. Un album au village et un album en voyage. Alors au village, ça va être des événements survenus à des héros du village, souvent avec les Romains voisins. Ça permet de faire de la sociologie. C'est le problème de l'immobilier, des promoteurs, le problème du libéralisme ou du mercantilisme avec Obélix et compagnie. Vraiment des histoires de société. La société, en l'occurrence, c'est le village. Et puis, quand c'est pas ça, ce sont des voyages, avec d'ailleurs un certain bonheur, parce que ce sont souvent les plus drôles. Donc c'est un voyage en Allemagne, chez les Goths, en Suisse, chez les Helvètes, en Hispanie, chez les Espagnols. On va même en Amérique avec la Grande Traversée. On va en Grèce pour les Jeux Olympiques. Et à chaque fois, on va dessiner les caractéristiques d'un peuple, vu par les Français, évidemment. Le plus significatif étant Astérix en Corse, où Goscinny et Uderzo vont en Corse pour la première fois. Ils vont véritablement
sur place, pour l'album.
Oui, pour ça l'album. Ils recensent évidemment toutes les caractéristiques réelles ou supposées des Corses. Et ils en font un album extrêmement savoureux, avec notamment une célèbre préface dans laquelle il s'explique, il se justifie, et notamment il s'excuse auprès des Corses parce qu'ils savent que ceux-ci sont susceptibles.
Alors, pour en venir plus précisément au personnage d'Astérix, une de ses premières caractéristiques est qu'il est courageux.
Il a les caractéristiques du héros, c'est un anti-héros, comme le présente Goscinny, mais en réalité, il a les caractéristiques du héros, il est courageux comme Cyrano, il est chevaleresque, parce que tout ça, c'est pour ramasser la cape d'une dame, et il va être galant, il va, dans un autre album, il va, pour les beaux yeux de Falbala, aller chercher un fiancé en Afrique. Il a véritablement les caractéristiques qu'on prête au peuple français dans les romans. Il est courageux, il est insolent avec les Romains, mais il a également parfois un caractère de cochon. Il va se chipoter avec son ami Obélix, mais pour mieux se réconcilier. Enfin, on est là dans un registre qui en fait un personnage très attachant. J'ajoute juste que ces caractéristiques ont pu enfermer Astérix dans une certaine fadeur. Il est trop parfait. Et peu à peu, on a réalisé que c'est Obélix qui prend le dessus sur son camarade, au point que ça crée une sorte de déséquilibre. Et ça, c'est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure du tandem, du duo, qui est un registre comique évidemment très intéressant, qu'on trouve au théâtre avec chez Molière, évidemment, qu'on trouve aussi dans la bande dessinée avec Tintin et le capitaine Haddock. Et il est arrivé la même chose à Hergé. Tintin a d'immenses qualités, il est absolument parfait, jusqu'à en être un peu fade. Et c'est le capitaine Haddock, avec ses excès, on va pas faire une séance sur le capitaine Haddock, ce sera pour une autre occasion, mais c'est lui qui tout d'un coup devient le favori des lecteurs. Je sais pas si ça a été fait par sondage, mais à l'évidence, il y a un personnage qui passe au premier plan parce qu'il est beaucoup plus contrasté et finalement beaucoup plus intéressant. Et là, c'est Obélix, un peu au détriment d'Astérix.
Alors, vous disiez c'est un héros, on peut dire aussi que c'est à une époque où les bandes dessinées américaines commençaient à arriver en France, c'est le contraire d'un super-héros. Parce qu'une chose assez frappante, c'est que la potion magique n'est donnée qu'avec la plus grande parcimonie par le druide panoramique. C'est parfois même, il la refuse. Donc, on peut pas dire que d'une part, c'est un super-héros et que la force dont il fait preuve est aussi, et d'autre part, tempéré par la ruse, parce que c'est un rusé, il donne des conseils d'intelligence à Obélix qui lui ne pense qu'à cogner en général.
Non, c'est le héros chevaleresque qui, d'emblée volontaire pour la mission, c'est lui que le chef va envoyer pour telle et telle mission. Effectivement, vous avez raison, de temps en temps, René Goscinny se souvient de son séjour américain et le brave Astérix sort sa passion magique quand véritablement la situation l'exige.
Alors, le point qui est loin d'être négligeable dans Astérix, c'est que c'est un coléreux. Et c'est le point que je soulevais dans mon introduction de ce personnage de râleur qui nous flatte peut-être un peu trop. Parce que dans Astérix, ses colères permanentes, cette manière de râler en permanente est plutôt flattée.
Oui, c'est peut-être aussi un peu pour casser ce héros parfait. Il faut qu'il ait des mauvais côtés, des défauts. Mais effectivement, pour ne pas être antipathique, et pour envoyer aux Français, au fond, une image assez sympathique et assez avantageuse d'eux-mêmes, il est râleur, mais au fond, on l'aime bien, et puis il a bon fond, il se réconcilie toujours, le bon côté de la nature humaine reprend toujours le dessus. Je crois que dans les années 50, ça faisait partie des caractéristiques du français. Je ne sais pas d'où ça venait, mais il était...
De râler, vous voulez dire ?
Il y avait râler, il y avait être divisé, il y avait être poli. Il y avait un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, il y a un Astérix qui est, je crois, la grande traversée, où Astérix et Obélix doivent se présenter aux Indiens, alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens de parler avec eux, ils ne parlent pas la même langue. Et donc, ils vont mimer leurs caractéristiques pour se présenter. Et on les voit faire des gestes. Et effectivement, on les voit se chipoter, mais aussi se réconcilier par des gestes assez explicites.
Est-ce que vous ne diriez pas, Étienne de Montetti, que plutôt que son ami... Obélix est l'enfant d'Astérix. Moi, ça me frappe parce qu'il n'arrête pas de le tempérer, de le rassurer. Ne mange pas trop, ne bois pas trop, ne cogne pas trop. Il se fait une espèce de, plus qu'un apôtre de la modération. On dirait presque que c'est son père.
Oui, ou sa conscience. C'est Jiminy Cricket sur l'épaule d'Obélix. Ils ont le même âge. On a découvert.
On le sait, ça?
Ultérieurement. Oui, on a ultérieurement. Il a été écrit des choses par Uderzo, ou publier des choses que Goscinny et Uderzo avaient fait, et selon lesquelles ils seraient nés le même jour et que voilà, ils ont été toujours inséparables. Il y a toute une histoire sur l'enfance des deux dans un album qui n'est pas très ancien, qui doit s'appeler La Rentrée Gauloise, si ma mémoire est bonne.
Ah oui, mais nous sommes hors Goscinny là.
Mais non, ça a été des reprises d'histoires courtes que Goscinny et Uderzo avaient faites, qui sont pas des grands albums, c'est des histoires de 10 pages. Mais où effectivement, il y a toujours, comme dans un tandem ou dans un couple, il y a toujours l'impétueux et le sage. Ils ont un rapport fraternel plus que paternel, peut-être.
C'est un peu un trio tout de même, car il y a Idéfix. Et je me demande d'ailleurs si c'est le nom d'Idéfix qui aurait été trouvé, comme j'ai dit, qui a conditionné son obsession pour les arbres. Je ne sais pas, ou si c'est le contraire. Et que je rappelle qu'Idéfix pleure dès qu'un arbre est déraciné. Est-ce que vous pensez que c'est un vieux héros barisien ou un jeune héros écologiste?
Je pense que c'est un jeune héros écologiste, moi. Parce que naît ce sentiment d'écologie dans les années 60, au moment où survient ce personnage. Et puis la mode dans la bande dessinée, la bonne idée, c'est de donner à des animaux des sentiments et des paroles humaines. Et Idéfix devient aussi un personnage chantancieux sur beaucoup beaucoup de sujets, un peu comme Jolly Jumper, qui est le meilleur ami, et également le Jiminy Cricket de Lucky Luke.
Il me semble qu'il y a dans Astérix un petit côté flatterie du populo qui se remarque pour moi en particulier dans la façon dont lui et les gens du village traitent Assurance Tourix, oui, j'avais un doute tout d'un coup, le barde. Et tout d'un coup, c'est le barde, c'est le poète, il chante toujours faux, c'est un raseur, on le tolère, mais on dirait que le ciment dans la communauté du village, c'est chaque fois de le bâillonner, de l'accrocher. Et moi, ça me froisse quand même un peu de voir comment on traite les poètes dans Astérix.
C'est vrai, et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il reste. C'est-à-dire que s'il y a un peu de sadisme du côté du village, il y a de la part d'Assurance Tourix, sinon une certaine faiblesse, peut-être même un certain masochisme quand même.
Nous allons maintenant entendre une autre parodie des Romains et des Gaulois. C'est un extrait du film « 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ » de Jean Yann. Il date de 1982.
Ave, L'événement du jour, c'est évidemment la somptueuse fête donnée par le puissant César en l'honneur de la divine Cléopâtre. Ce spectacle restera dans les annales de Rome comme un des plus grands événements du règne de César.
Laissez passer le puissant César!
Oh! Mais c'est lui! C'est lui, c'est l'assassin! Garde! Arrêtez-le, il est armé!
Eh ben, je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire là-haut.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Harep-Locum, où dans quelques instants nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César, maître incontesté de l'Occident, à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte. 1m72, 47 kilos, fille d'Aménophistophélète de...
Étienne de Montetti, les aventures d'Astérix, à mon avis, se situent, ou en tout cas en partie, dans la continuité des opérettes 19e comme Fifi, c'est-à-dire un temps où la connaissance des choses antiques était répandue dans, tellement dans les, toutes les classes de la société qu'on pouvait faire une opérette sur le sculpteur Phidias et que ça parlait plus ou moins aux gens. Et Astérix est encore un peu de ce temps-là, non ?
Ah oui, c'est un enfant de la Troisième République, de l'éducation évidemment de Goscinny et du Derzo, même si c'est à l'école primaire, je ne crois pas que ce soit des gens qui ont fait beaucoup d'études, et il parle à une population qui a grandi dans le Malais Isaac et qui connaît, peut-être pas par cœur, mais qui connaît les pages rouges du dictionnaire, par exemple. En effet, toutes les histoires de la mythologie romaine, les plus communes, sont dans l'esprit de tous les lecteurs.
Alors, c'est un mélange donc de culture latine. Dans ses interviews, Goscinny dit très pieusement qu'il lit et relit les livres de Jérôme Carcopino, de culture populaire du temps. On voit chez là des citations de chansons populaires. Mais aussi, d'ailleurs, la culture populaire fait que probablement dans les rééditions dans 50 ans, il faudra des notes en bas de page pour expliquer que, par exemple, ce monsieur caricaturé à la page 40 des Lauriers de César était un acteur populaire nommé Jean Richard.
Oui, effectivement, qui avait un cirque aussi et qu'on voit dans le cirque avec ses lions. De fait, moi, je l'ai observé avec mes enfants, il y a des tas d'allusions qui sont méconnues. C'est peut-être l'aspect périssable d'Astérix, beaucoup plus que les traits de caractère qui sont relativement pérennes. Quand un corps s'appelle Ocatarinetta Bella Cicix, malheureusement, on en demande pardon à Tino Rossi, mais ça parle pas à grand monde aujourd'hui.
Est-ce que ça ne veut pas dire plus généralement, une chose que moi je pense très fortement, c'est que la culture populaire est celle qui s'évente le plus vite?
Ah oui, en effet, les visages des acteurs qui sont dans Astérix sont très très familiers pour ceux qui les ont connus, mais aujourd'hui plus personne n'a forcément le visage d'Annie Cordy en tête. En revanche, les traits de satire des Gaulois ou de leurs voisins sont plus faciles à comprendre quand même.
Dans une interview qu'on retrouve dans le livre « Goscinny raconte les secrets d'Astérix », Goscinny dit « Je ne suis pas un moraliste, je suis un amuseur ». Alors, il a raison ou pas, parce qu'il peut être moraliste par l'interprétation qu'on en fait, que les gens en font, et après tout, ils ont bien le droit de la faire. Et des gaullistes ont voulu que ces Gaulois, évidemment, soient les Français résistants contre les Allemands, ce que Goscinny a lui-même fortement contesté.
Oui, alors, sur le point de savoir si c'est un amuseur ou un moraliste, je pense qu'il est plus facile d'avouer qu'on est un amuseur qu'un moraliste. En réalité, il se présente comme un amuseur. Après, l'effet second est peut-être de devenir un moraliste. Castigat ridendo mores, je crois, comme on disait jadis, peut-être chez Plaute, je ne sais plus.
Dans Astérix aussi, d'ailleurs.
Et dans Astérix aussi, c'est certainement la devise d'Astérix, évidemment. Moi, j'ai l'impression que le village d'Astérix, c'est la nation. Et que les Romains, c'est l'Empire. Autrement dit, le village, c'est un endroit qui est circonscrit, c'est un pays, c'est, admettons que ce soit la France ou un autre pays, avec ses frontières, hein, la palissade du village, avec ses traditions, mais sans forcément une vocation expansionniste, qui, à mon avis, est la caractéristique de l'Empire romain, de l'Empire russe, l'URSS à l'époque très très forte, du Reich 15 ans avant la naissance d'Astérix, et qui a ces deux idées de deux entités politiques, l'une qui est forte, notamment avec des traditions et avec une identité forte, évidemment, mais pas forcément expansionniste, alors que l'Empire l'est, et que il y a quelque chose d'assez français dans cette idée nationale, parce que l'Empire, moi je pense, est une idée étrangère à la France. Il y a eu des empires, il y a eu l'Empire colonial, évidemment, et puis le premier et le second empire, mais ce sont pas des temps forcément ni très longs ni très glorieux de l'histoire de France. En revanche, la France fait la guerre, elle fait la guerre en Italie ou en Espagne ou en Allemagne, pas pour son bien et rarement avec l'idée d'y rester.
Je vais revenir à ce que vous dites, qui est très intéressant, Étienne de Montetti, mais je voudrais, il y a quand même des choses qui ont l'air positivement des allusions au gaullisme ou à la résistance. Dans le Tour de Gaulle, Astérix est aidé par le chef clandestin de la ville de Lugdunum, ou Lugdunum. On ne peut pas ne pas se dire qu'ils ont pensé à Jean Moulin à Lyon. Dans Astérix et les Bretons, l'alliance des Gaulois et des Bretons peut rappeler Churchill et de Gaulle. Enfin, il y a quand même, même si Goscinny s'en défend, des allusions très fortes.
Il y a des allusions parce qu'en 1959, ce temps est extrêmement présent au lecteur et que ça fait partie de l'histoire de chacun. De là avoir un message immédiat. Évidemment qu'il y a en 1959 l'idée du héros, même la potion magique, l'homme providentiel, toutes ces choses sont quand même dans l'air. 1959, la France rentre dans la 5e République avec la Constitution qu'on sait, qui est au service d'un homme, le général de Gaulle. Et d'ailleurs, je crois que c'est le combat des chefs qui est quasiment contemporain de 1965, c'est-à-dire la date où non seulement on est sous la 5e République, mais on entre dans le suffrage universel pour élire le président. Il se sert de l'actualité quand même. Ce qu'il voulait pas, c'est être ramené, ouais, récupéré. Comme ça l'a été, puisque je crois qu'un parti politique gaulliste, d'ailleurs, avait voulu mettre Astérix sur une de ses affiches. Et évidemment, les auteurs s'y sont opposés. Mais il se sert de l'actualité, de ce que les gens entendent et voient. Et donc, tous ces éléments sont dans Astérix.
Alors, pour en revenir à ce que vous disiez juste auparavant, je me demande si, d'une certaine façon, Astérix et son succès n'ont pas été le pansement d'une France qui ne pouvait plus se permettre d'être le molosse qu'elle avait été pendant longtemps et qui se mettait à s'allier avec tout ce qui pouvait exaspérer son maître. C'est-à-dire que Astérix est le soutien des petits hispaniques et des petits bretons contre les méchants romains, mais c'est un peu parce que la France ne pouvait plus faire autrement. Je voudrais vous citer une phrase de Maurice Aguillon dans la Revue d'ethnologie française. « Si notre hypothèse est bonne, le succès d'Astérix dans l'esprit des Français serait un signe d'adhésion d'une partie considérable, sinon majoritaire, de l'opinion française, d'un patriotisme modifié, de gaullisme non distinct. » Alors c'est un peu charabia, mais ça veut dire ça, ça veut dire la France n'est plus ce qu'elle était, elle se pourvoit de héros un peu roquets.
Certainement, c'est la France de l'après-guerre qui a quand même connu la défaite de 40, l'occupation, et on sait que le général de Gaulle a beaucoup, sur sa seule personne, avec la magie de son verbe, essayé de donner l'impression à la France qu'elle était grande. Et Goscinny lui répond qu'elle n'est peut-être pas grande, mais qu'elle a encore des vertus, qu'au fond, même un petit village peut avoir des vertus sans être forcément un empire. Je poursuis mon idée avec la nation. Renan définit la nation de cette manière. Il dit qu'il faut un passé avec un héritage de gloire et de regret et un programme à réaliser. Donc Astérix, il y a un héritage de gloire et de regret, c'est les constantes allusions à Gergovie et à Alésia, autrement dit aux victoires et aux défaites. Et en 1959, ça parle aux Français. Ça leur parle de 1940 et de 1944-45. Et puis un programme à réaliser, ben mon Dieu, ce sont les 30 glorieuses dont Astérix est le contemporain. Et dans les histoires d'Astérix, ben c'est le programme des missions qu'il doit réaliser, tel le chevalier du Graal.
Alors, ça n'est pas plus important que ça, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Astérix, les aventures d'Astérix, pas le personnage, sont un modèle même d'intégration, et je parle là de l'intégration de ses auteurs, c'est-à-dire de Goscinny, qui est un descendant d'une famille juive immigrée, et de Uderzo, qui est un descendant d'Italiens immigrés.
Ah oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des clés du succès d'Astérix, c'est-à-dire ce sont deux auteurs qui sont à la fois absolument pleinement français, par l'éducation qu'ils ont reçue, l'instruction qu'ils ont reçue, mais avec cet œil extérieur qui en donne la saveur, parce qu'on ne voit jamais mieux que quelque chose ou quelqu'un ou son pays quand on a pris un petit peu de recul. Et Goscinny, quoique français, a vécu en Argentine et aux États-Unis, et il est revenu en France pour travailler. Et Uderzo, effectivement, était un enfant d'immigrés vénitiens. Et ils ont cette double approche, à la fois un pied dedans et puis un pied dehors.
Alors, il y a une chose qu'on dit parfois d'Astérix, non pas là non plus du personnage, mais des aventures, c'est que c'est un livre assez, enfin des aventures assez conservatrices. Mais c'est oublié de dire une chose, que on se moque, ces Gaulois se moquent en permanence du pouvoir et en particulier des symboles du pouvoir. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Abraha-Coursix n'arrête pas de tomber de son bouclier, qu'à un certain moment, sa femme Bonne Mine prend le bouclier, le symbole même du pouvoir, pour lui taper dessus, et que donc là, c'est une espèce plutôt d'anarchisme.
Ah oui, c'est une caractéristique française, à la fois celui qui se moque du gendarme et puis celui qui est incroyablement légitimiste. Donc cette contradiction est là, et vous avez raison, le chef Abraha-Coursix, ni par son physique, ni par son caractère, ni par tout ce que les auteurs lui font endurer, mais le modèle d'un pouvoir sacralisé, bien au contraire. Non, la légitimité chez Astérix, elle vient plutôt des qualités intrinsèques d'un homme. Finalement, on va respecter le courage, on va respecter la beauté, beaucoup plus qu'un pouvoir qui d'ailleurs vient d'on ne sait où, puisque Abraha-Coursix n'a évidemment pas été élu. Il a peut-être été nommé là parce qu'il était le fils de son père, mais ce sont des choses que les Gaulois respectent assez peu.
Je me demandais en commençant si Astérix n'était pas le cabotinage des Français, mais les Français, ça comprend les Françaises, et il me semble que ça n'est pas un personnage tellement cité par les femmes, et j'ai un peu l'impression que les femmes passent Astérix aux hommes un peu comme un enfantillage. Elles seraient un peu comme envers les Français, lisant Astérix, un peu ironique comme Bonne Mine, non ?
Oui, alors ça pose la question de la place des femmes dans Astérix. En 1959, la bande dessinée est non mixte. Pilote est un journal pour les garçons. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est de la misogynie. À l'époque, c'est une société qui est pas tant misogyne que non mixte. Les collèges sont des collèges de garçons, de filles, écoles de garçons, écoles de filles. Et Pilote est un journal pour les garçons, ce qui fait que les femmes n'y ont absolument pas droit de citer. Peu à peu, les femmes vont exister. Bonne Mine va avoir effectivement un prénom, quelques autres femmes du village aussi, puis après il va y avoir de véritables héros qui vont rentrer dans Astérix et qui sont des femmes, et ça c'est assez tardif finalement. Et pour une femme, lire Astérix, je pense, c'est entrer dans un monde qui n'est pas tout à fait le sien, dans lequel elle va effectivement retrouver peut-être son père, son frère ou son amoureux, mais c'est pas une histoire qui parle tellement aux femmes, je ne crois pas. D'ailleurs, moi, je crois que les femmes autour de moi l'ont lu par politesse pour faire plaisir aux hommes qu'elles aimaient.
Étienne de Montetti, que vous a appris le personnage d'Astérix ?
Je crois qu'il m'a appris beaucoup de choses sur, c'est vrai, mon pays. C'est-à-dire que je crois que j'ai connu peut-être la ville de Marseille par ce qu'Astérix disait de Massilia, avant de m'y rendre moi-même. C'est-à-dire, j'ai compris que c'est un petit peu ce que je pouvais trouver dans un certain nombre de villes ou dans un certain nombre de caractéristiques de mes compatriotes. Et puis également, ça m'a aussi appris tout ce qu'on devait à cette époque. Et on parlait tout à l'heure des pages roses du dictionnaire. J'en ai appris beaucoup dans Astérix avant de les découvrir dans mes versions latines. Et ça a contribué d'ailleurs à un certain attachement, sans être un grand latiniste, enfin un véritable attachement au latin et à la langue française, parce que je comprenais à travers Astérix que c'était important pour comprendre la France qui était la mienne, puisque Astérix me parlait en fait de la France qui était la mienne.
C'était Personnage en personne, le 35e, réalisation Clotilde Pivin, attaché de recherche et de documentation Daphné Abgral, prise de son Bernard Lagnel.
Tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue.